Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Madame, Monsieur, bonjour à tous. Bienvenue à vous qui souhaitez visiter des lieux de France originaux et plutôt méconnus. C'est ça notre vocation. Alors, dans cette émission, vous allez découvrir, comme d'habitude, quatre sites qui, j'en suis sûr, vont vous surprendre. Alors, le premier, dans un instant. Alors, c'est un site qui est insolite. L'autre, parce qu'il figure à notre patrimoine architectural. Un troisième, parce qu'il symbolise un savoir-faire français. Et puis le dernier, qui offre une expérience en plein air, comme chaque samedi. Oui, en plein air, même en hiver. Alors, démonstration avec Gavin Clément-Terruiz, notre chasseur de sites, ambassadeur du guide du routard, s'il vous plaît. Bonjour, Excellence.
Bonjour. Alors,
et cela pour une plongée dans... Alors, c'est l'univers de la médecine sous Louis XIV, ce n'est pas que ça, vous allez voir. Alors, on n'est pas chez Molière, mais on n'est pas loin. Alors, d'abord, le lieu, Gavins, et ensuite, pourquoi on considère que c'est très insolite.
Eh bien, bonjour William, bonjour à tous. Alors oui, c'est très très insolite. Pourquoi ? Alors, on va le découvrir. Cette semaine, on vous emmène dans les Pays de la Loire, plus précisément à Baugé en Anjou. Alors, c'est à une quarantaine de kilomètres d'Angers. On est dans ce qu'on appelle une petite cité de caractère.
Qui c'est qui appelle ça comme
c'est
ça ?
C'est des labels, vous savez, il y a plein de labels.
Mais est-ce qu'on met ça sur la...
À l'entrée du village.
À l'entrée du village.
Ouais, on demandera à monsieur le maire s'il l'a mis après. C'est l'ancienne capitale du Baugeois. C'est là que le roi René d'Anjou avait fait bâtir son château. C'est d'ailleurs, vous savez, le roi qu'on appelait le bon roi René.
Oui, mais c'était gentil roi, mais on va voir pourquoi d'ailleurs. Alors, on vient pour le château, on vient pour le roi et ce qu'il a fait ou autre chose ?
Bah, on vient un petit peu pour tout ça. Ce château est vraiment une splendeur, c'est une demeure pré-Renaissance. Il y a un très très bel escalier à vis avec une voûte en palmier. Vous allez voir quand vous allez grimper.
Une voûte en palmier,
vous savez, ça a une forme de palmier, de pierre.
Une grande feuille de palmier.
C'est très beau, c'est sculpté. Depuis l'an passé, il y a un nouveau parcours de visite qui a été repensé dans le château du 15e siècle, hein, quand même. Et puis, il y a plein d'innovations pour découvrir la vie à l'époque. On va découvrir l'univers des tournois, la chasse, la vie de cour aussi, bien sûr. Et puis, il y a une super collection d'animaux exotiques.
Alors, si je me souviens bien, on l'appelait le bon roi René parce qu'il était plus tourné vers les arts que la guerre. C'était assez étonnant à cette époque-là parce qu'ils étaient plutôt belliqueux en général, les rois.
Oui, mais ce n'est pas de lui dont je vais vous parler, mais de l'apothicairerie.
L'apothicairerie.
Oui, c'est situé juste à côté du château, dans l'enceinte de l'Hôtel Dieu. C'est l'ancien nom qu'on donnait aujourd'hui à l'hôpital.
Oui, apothicairerie, on devine avec le nom à peu près de quoi il s'agit. Et elle est particulière.
Oui, bien sûr. Bah, c'est l'ancêtre de la pharmacie. Celle dont je vais vous parler aujourd'hui, elle date de 1675. Alors, elle a été créée par deux femmes. La première, c'est une religieuse obstinée, j'ai envie de dire. Elle s'appelle Marthe de la Beauce. Et elle était associée à une bienfaitrice fortunée, c'est la princesse Anne de Melun. Elle souhaitait construire un hôpital pour les pauvres dans cette ville qui, à l'époque, comptait que 3000 habitants. Moi, je dis respect, mesdames.
Noblesse toutes les deux. Hein.
Ouais.
Alors, quand on est sur place, qu'est-ce que l'on voit rapidement et qui mérite le déplacement ?
Alors, c'est là que ça devient vraiment exceptionnel. C'est le clou de la visite. Il y a des boiseries en chêne. Il y a un plafond étoilé, encore une fois, et un plafond peint en faux marbre. Là, il a été fait au 19e siècle, celui-là. Et un sol marqueté et ensoleillé, parce que le roi soleil, Louis XIV.
Alors quoi, il y a des soleils partout ?
Ouais, c'est un peu la forme d'un soleil au niveau du parquet. C'est assez extraordinaire. Et surtout, alors, attention, là, on en prend plein les yeux, il y a des rayonnages qui sont remplis d'une collection complètement folle de récipients. Il y en a plus de 650 en céramique. C'est la céramique de Nevers, très précisément. On a l'impression d'être dans un décor baroque. On se croirait presque aussi dans un décor de cinéma, dans l'antre d'un alchimiste. Mais là, William... Tout est vrai.
Oui, alors quand vous dites « entre », c'est pas faux.
C'est ça.
Parce que c'est pas immense, hein, finalement.
Non, ça fait même pas 30 mètres carrés. C'est 28, je crois, précisément.
Oui, mais ce qui est peut-être intéressant, c'est de visiter chaque récipient, parce qu'il y a toujours écrit des choses dessus.
Ah bah, on va les lire tout doucement dessus. Ouais. Les noms, et c'est là où ça devient encore plus rigolo, j'ai envie de dire, plus spectaculaire. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'entre d'un alchimiste, c'est que les noms des pots font sourire. Il y a du sandbouc, il y a de l'huile de lombrique, gris, qu'il y a de la poudre de cloporte.
Ouais, ce qu'il faudrait savoir, c'est demander à l'époque, mais vous en serviez pour quoi faire, quoi.
Ah bah ça, je crois qu'on peut le savoir.
Alors, en effet, ça mérite d'en savoir plus. Ça tombe bien, nous sommes avec Philippe Chalopin, qui est le maire de Baugé-en-Anjou. Bonjour, monsieur le maire. Oui.
Bonjour William, bonjour à tous.
Alors, parlez-nous d'abord de ces deux femmes-là, dont Gavis vient de dire le nom. C'est la religieuse Marthe de la Beauce et la princesse Anne de Melun. Dites donc, c'était des saintes femmes ces deux-là, non ?
Oui, tout à fait. C'était effectivement des femmes qui ont voué leur vie aux plus démunis. Donc Marthe de la Beauce, c'est une bourgeoise qui avait peu d'argent, peu fortunée, qui avait fait le serment sur le lit de mort de son père de construire un hôpital. Mmh. Et donc elle a commencé les travaux en 1643, mais n'ayant pas de moyens, les travaux n'avançaient pas très vite. Mmh. Elle a rencontré par le fruit du hasard Anne de Melun, qui était hébergée à La Flèche provisoirement, donc princesse d'Épinois, qui était retirée de la vie de la cour et qui a décidé de s'investir aux côtés de Marthe de la Beauce pour l'édification de cet hôpital. Marthe de la Beauce a réussi à la convaincre et grâce aux moyens financiers qu'elle apportait, les travaux ont repris. Et l'hôpital a en fait ouvert ses portes à la fin de l'année 1650. Ouais. Et toutes les deux se sont installées à l'Hôtel Dieu et ont œuvré toute leur vie au service des malades.
Quand j'entends ça, œuvrer toute leur vie au service des malades, ça me fait penser à Saint-Vincent de Paul qui faisait ça lui aussi, qui a aidé beaucoup les malades et les pauvres en son temps. Alors, cette apothicairie, c'est encore mieux que le château d'Harry Potter parce que j'ai une photo là, on dirait l'atelier d'un sorcier. C'est vrai qu'à l'époque, on y trouvait de la poudre de cloporte et ou de l'huile de lombric. Est-ce que vous savez, monsieur le maire, à quoi ça servait, certains de ces potions magiques là?
Alors, si vous voulez, c'est vrai qu'on a un peu le sentiment d'être un peu dans le château d'Harry Potter, ça c'est évident, on s'attend à le voir sortir peut-être à tout moment. Donc, alors oui, il y avait une sœur apothicaire, effectivement, qui résidait à l'époque dans les lieux, qui s'occupait de la réalisation, de la conception de remèdes qui étaient utilisés. Donc, on utilisait des substances ayant des propriétés thérapeutiques. Ouais. Donc, elle puisait les ingrédients dans le règne végétal, puisqu'on faisait avec les moyens du bord, le règne minéral, puis le règne animal. Donc, ce qui fait qu'on y trouve effectivement de l'huile de lombric, par exemple, qui était employé contre les douleurs articulaires.
Tiens, je vais noter ça. non, mais quand mal au dos, mal du siècle, donc le
lombric.
Non, mais j'ai noté l'huile de lombric. Alors, c'est pas très grand, on disait tout à l'heure, c'est pas très grand, mais c'est la pharmacie de l'hôpital, quoi, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça. C'est une pharmacie hospitalière, donc elle fait un peu moins de 30 mètres carrés, c'est 28 mètres. Il y a beaucoup d'étagères qui permettent effectivement d'occuper totalement l'espace. Mmh. On a environ 650 contenants. Donc on y stocke à la fois des matières premières pour y faire des remèdes et les remèdes eux-mêmes. Et puis le laboratoire était installé dans une pièce juste à côté.
Pour concevoir les liquides, les poudres et autres.
Après, à l'abri des regards aussi.
Bien sûr. Après, on peut visiter l'Hôtel Dieu. Qu'est-ce qu'on y voit dans l'Hôtel Dieu ?
Alors, on a une première exposition. On va du soin des cœurs, des corps, jusqu'au soin des âmes, parce que on traverse une grande salle des malades, qui au XVIIe avait une hauteur de plafond de 6 mètres. Alors aujourd'hui, on est un peu moins haut. Donc pourquoi aussi haut à l'époque? Parce qu'on y chassait les miasmes en faisant des courants d'air régulièrement. Vous voyez, on aérait un peu comme aujourd'hui.
Ah bon? Plus c'est haut et plus l'air circule, quoi.
Voilà, c'est ça. Ah bon. Et puis ensuite, vous arrivez donc au soin des armes avec la chapelle de l'Hôtel Dieu. Avec il y a un retable impressionnant en baroque, en bois doré, et en levant les yeux, on peut admirer le très beau plafond à caissons en bois, et on retrouve, je dirais, l'ambiance de l'époque. Et puis lorsqu'on traverse cette salle conventionnelle, il y a la salle du chapitre et le réfectoire des sœurs qui se réunissaient. Mmh. Et puis tout au long de ces salles, on déambule et on y trouve des espaces où on évoque les soins, la médecine. Et puis on évoque aussi la vie de cette congrégation.
Et la médecine était très liée, comme c'était souvent le cas dans des établissements pareils, à la religion. Quoi, d'où la puissance parfois du clergé. Mais ça, c'est une autre histoire. Dites donc, j'ai vu que c'était une médecine où on utilisait les sangsues. Pour récupérer du sang, c'est pas très agréable ça, non ?
Oui, mais elles étaient pour utilisées faire des saignées. Comme la... on faisait beaucoup de saignées à l'époque.
Eh oui, voilà, c'est ça.
C'était le remède essentiel, hein, prélèvement massif du sang qui redonnait normalement la santé aux patients.
Mais on voit
donc
ça dans Molière.
Au 17e, c'était très, ouais, très courant. Quoi.
On voit ça dans Molière, absolument. Il y a des visites guidées, bien sûr. Mais alors, il
paraît
qu'il y a des
visites
théâtralisées, c'est-à-dire.
Voilà, alors on a deux guides extraordinaires, Émile et Clotilde, qui sont un duo de comédiens qui guident les visiteurs, alors qu'ils font un peu le lien entre le passé et le présent, et qui font revivre des personnages qui ont marqué l'histoire, effectivement, de cet espace. Donc c'est un spectacle vivant, très humoristique, un petit peu des fois décalé, d'1h30, alors je peux vous assurer qu'on ne s'y ennuie pas.
D'accord. Merci, monsieur le maire, je vous souhaite un bon après-midi. Merci pour toutes ces précisions.
Merci de votre intérêt.
Au revoir.
Bonne journée à tous. Au revoir.
Gavitz, combien ça coûte cette visite-là? Parce qu'il y a pas mal de choses à voir, finalement.
Ah oui, il y a plein de choses. Alors, ça coûte 9 euros si on veut juste venir voir l'apothicairie. Et puis, si on veut ajouter la visite de l'Hôtel Dieu, c'est 13 euros le billet combiné avec apothicairie et Hôtel Dieu. Et puis, ce sera ouvert du 5 au 20 février pendant les vacances scolaires des Pays de la Loire. Sinon, eh bien, ce sera à partir du mois d'avril jusqu'en octobre.
D'accord, il faut rappeler, ça se passe à Baugé en Anjou, et c'est pas loin d'Angers, c'est ça?
Exactement.
Bon, si on veut manger dans le coin, qu'est-ce qu'on fait?
On va aller juste derrière le château. Il y a une adresse qui s'appelle Au Prestige, c'est 4 rue du Cygne.
Mais
Au accent circonflexe.
Oui.
Au Prestige. On est dans un ancien relais de poste.
C'est un ancien Prestige, au pâté de foie.
Oui, ah bah non, là, vous allez voir, c'est autre chose. Vous allez pouvoir manger des rognons de veau à la Beaujoise.
Ah bah si, c'est bien ça.
C'est la spécialité locale, avec de la moutarde flambée au cognac. Il y a un petit menu retour du marché.
C'est vrai qu'on ne mange pas souvent ça.
Bah non.
Les rognons de veau.
C'est l'occasion.
Ouais.
Des petits rognons de veau chez Au Prestige à Baugé en Anjou. 19,95 à midi. Et
très
sinon,
original, non?
Ça
fait ce week-end,
soir.
Moi j'ai été bouffé des rognons de veau à Baugé en Anjou.
À la Beaugeoise, flambé au cognac. Oui,
ouais, d'accord.
Avec modération.
Si vous voulez en savoir encore plus, hein, vous tapez sur Europe1.fr, hein, évidemment.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Deuxième site original qui mérite votre visite, madame, monsieur. Celui-ci est consacré au patrimoine, avec des monuments qui ne ressemblent à aucun autre. Et Dieu sait s'il y en a en France qui sont uniques. Alors, celui dont on va parler tout de suite, c'est une église. Ça se passe en Aquitaine, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Alors, Gavitz Clément Terruis va vous dire pourquoi il a retenu l'attention du guide du Routard dont vous êtes un humble serviteur.
Eh bien, nous sommes dans le sud-ouest, William, et on va s'arrêter à Monin, très précisément.
À propos de Monin, pour ceux qui n'habitent pas dans la région, il faut savoir que c'est écrit M-O-N-E-I-N, et ça se prononce Monin.
Monin, tout simplement. Et c'est à une demi-heure de route au nord-ouest de Pau, précisément. C'est une petite commune avec la place centrale, avec les jolies maisons, à un seul étage, il faut bien le préciser. Alors, imaginez là, au XVIe siècle, Henri IV... Le régional de l'étape, j'ai envie de dire,
oui.
qui déambulait dans Monin et qui l'avait surnommé le Paris du Béarn.
Alors je ne sais pas, quand j'ai vu ça comme vous, cette dénomination, je me suis dit, est-ce que ce n'était pas ironique de sa part? Je ne suis pas sûr que ce Béarnais aimait Paris.
Non, je crois qu'il avait envie de mettre en avant...
Il voulait dire que c'était grand, que c'était beau.
Que c'était une belle ville, une ville importante. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir visiter la région. Et puis surtout, dans la région, vous serez au cœur des caves de Jurançon, qui sont juste tout autour.
Ah oui, bien sûr.
Il y en a plus d'une vingtaine de domaines tout autour de Monin, et qui se présentent, et qui se visitent surtout.
Non, mais ce n'est pas parce qu'il y a du très bon vin que vous avez choisi cette région. Si, un peu.
Non, mais j'aurais pu, en effet, oui, quand même. Mais je vous propose de faire un petit détour un peu plus culturel, un peu plus patrimonial, quoique le vin c'est toujours patrimonial. Mais bon, là on va s'arrêter à l'église de Monin, qui est tout simplement la plus belle et peut-être la plus importante église gothique du Béarn.
Bon, alors imaginons, à la radio on ferme les yeux, et dites-moi à quoi ça ressemble.
Alors moi aussi je ferme les yeux, William. Cette église Saint-Giron, ça, parce qu'elle s'appelle comme ça, c'est son nom, n'a rien des églises normales. Alors déjà elle a été construite entre le 15e et le 16e siècle. Alors, elle est flanquée d'une tour sur son côté. Il y a son plan général qui est complètement asymétrique Et c'est ça qui lui donne vraiment...
Et ils l'ont fait exprès ?
Bah ouais, et ça a été construit au fur et à mesure. C'est ça qui fait son charme fou. Le principal de la visite se trouve à l'intérieur de l'église, avec la charpente. Alors la charpente, c'est là, j'ai envie de dire, c'est le clou de la visite. C'est une charpente en chêne, en forme de double carène de navire renversé.
Il faut expliquer ça.
Alors imaginez, on a un navire, vous le retournez et vous en mettez deux côte à côte.
Vous avez un navire, vous le mettez à l'envers.
Et ça donne
la charpente. Vous le mettez au plafond.
C'est ça qui est assez impressionnant. Et ça donne une de ces églises avec une charpente. Alors, il y en a plusieurs
en
France.
Je pense à Honfleur.
Exactement, l'église Sainte-Catherine.
Oui, c'est ça.
Qui est vraiment très belle aussi. Et alors là, ce qui est unique, c'est qu'il y a deux charpentes renversées, en forme de navire renversé, de carène de navire renversé, très précisément. Et ça, il n'y en a nulle part ailleurs. Imaginez qu'il a fallu plus de 1400 arbres pour la construire.
Ça se voit parce qu'on a extrait une photo d'Internet. C'est magnifique.
L'éclairage est vraiment très beau. On est au plus proche. Hein. On monte au sommet de l'église, on monte sous la charpente et on la voit et on est juste en dessous. Et là, on se dit qu'il y a un petit côté divin, non ? Vous ne trouvez pas ?
Oui, mais en plus, j'ai l'impression qu'avec tout ce bois, le son doit être particulièrement bien restitué.
Oui, puis atténué et charnu, je ne sais pas. Il y a un côté très... très humain et très beau.
Alors, on va tâcher d'en savoir un peu plus, puisque nous sommes en ligne avec Sophie Lagoffin, qui est guide à l'Office du tourisme. Alors, ça s'appelle Cœur de Béarn. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors, on vient de le dire, cette église est grâce à sa charpente unique, mais dans le Béarn, il y a surtout de l'art roman, si mes lectures de lycéens ne me trompent pas. Or là, il l'a dit Gaby, c'est un chef-d'œuvre gothique. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vient faire là, le gothique ?
Effectivement, le Béarn possède de très nombreuses églises romanes. Or, à Monein, en 1464, on va commencer la construction d'un véritable chef-d'œuvre gothique, l'église Saint-Girons, aujourd'hui la plus grande église gothique du Béarn. Et on peut même, vous l'avez dit, ajouter qu'elle abrite une construction unique en France, sa charpente, construite en double coque de navire renversé.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle un plan asymétrique là, et pourquoi c'est comme ça ?
Alors en fait, au tout début de la construction de l'église, alors que l'on s'attelle à bâtir les fondations, on se rend compte de la présence d'un écoulement des eaux au sol sur la partie sud de l'église, empêchant alors toute construction du second bas-côté. L'église Saint-Girons, elle est donc particulière parce qu'elle ne possède pas de plan en croix et aucune symétrie autour de l'allée centrale.
Alors, on dit aussi, j'ai là un dépliant qui dit « une place importante est faite au cagot ». Alors cagot, ça s'écrit C-A-G-O-T-E-S dans l'église. C'est quoi les cagots ?
Alors les cagots, même si de très nombreuses hypothèses ont été écrites à leur sujet, c'est encore aujourd'hui un mystère. On parle de cagots, c'est une population que l'on trouvait beaucoup entre le XIIe et le XVIIIe siècle.
Ah bon ?
Une catégorie de personnes mises en marge de la société, qui vivaient à l'écart des villes, donc dans des quartiers qui leur étaient consacrés. Ils ont été longtemps associés à des parias, peut-être des lépreux, et donc ils donc peut-être des malades. Et leur faisait travailler des matériaux qui ne transmettaient pas les maladies.
Ah d'accord, oui c'est ça. C'était des, moi j'ai cru que c'était des marginaux parce que un peu des bandits, des voleurs, je sais pas. Mais non, c'était peut-être des malades.
Peut-être des gens exclus. Il y a beaucoup d'hypothèses, donc c'est difficile d'y voir très clair. Mais en attendant, ils faisaient des travaux très spécifiques. Ils travaillaient le bois, le métal, la pierre.
Ah bah oui.
Surtout le bois qui ramène à la charpente.
Mais et ce ne sont pas les cagots qui ont décidé de la construction ?
Non, ce ne sont pas eux, non. Par contre, la construction de cette charpente remarquable, elle s'explique pour deux raisons. 15e siècle, Monein, c'est une des villes les plus peuplées du Béarn.
Ouais.
Donc on va construire une grande église pour accueillir la population pendant les cérémonies.
Ouais.
Mais la toiture de l'église, qui est immense, c'est la première chose que l'on voit quand on arrive. Ouais. Bien en fait, à cette époque, il y a une vie religieuse très importante à Monein, mais pas d'évêché. Donc officieusement, on fait une grande église pour dire qu'à Monein, on n'a peut-être pas d'évêché, mais on a l'église Saint-Girons.
Dans l'église, il y a aussi un retable dont je rappelle. Alors, un retable, c'est un panneau sculpté qui est situé derrière la table de l'autel. Alors, celui-là est particulièrement spectaculaire, me dit-on. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, ce retable a été construit en 1717. Depuis, il n'a jamais été détruit malgré la révolution qui est passée par là. Et surtout, à première vue, quand on le regarde, on a l'impression qu'il est construit en marbre.
Oui.
Et en fait, c'est un trompe-l'œil. Il est construit entièrement en bois peint pour imiter le marbre avec de la peinture dorée.
D'accord, parfait. Bon, si vous passez par Menin, arrêtez-vous pour visiter cette église, bien sûr. Merci beaucoup, Sophie Lagoffin. Merci pour cette visite rapide. Bon après-midi. Alors, Gavitz, allons-y maintenant pour visiter. Comment fait-on ? On va où ?
Eh bien, on va à Menin et on va visiter cette église. Mais surtout, on va aller à l'office du tourisme de Menin pour s'inscrire. Il y a 3 visites guidées par jour.
Ah, il faut s'inscrire.
Ouais, il faut s'inscrire. D'accord. Ça coûte 6 euros par personne et je mets toutes les informations sur europe1.fr. Oui, c'est abordable, c'est surtout pour atteindre le ciel, pour atteindre Dieu, pour atteindre l'espoir.
Très bien, amen. Pour dormir ou manger dans la région, le Béarn, ça va, c'est gourmand, non ?
Ouais, j'ai ce qu'il vous faut, là, encore une fois. On va aller à l'hôtel L'Estaminet, c'est à 2 pas des Halles, c'est sur la route des vins de Jurançon, et c'est une petite chambre double à 67 euros, ça va, c'est correct, et il y a un menu de midi à 11 euros, à partir de 11,50 euros. Si vous amenez votre routard, hein, vous avez l'apéritif qui est offert sur présentation. Ouais, toujours. Je choisis l'adresse en fonction de cette petite offre.
Mais quand on vient, on n'a pas un cadeau, pardon, non ?
Ah bah, si, vous avez l'apéritif maison, c'est sympa.
Ah oui,
c'est
d'accord,
cadeau, quand même.
C'est ça, c'est un cadeau.
C'est sympa.
Non, je veux dire un objet.
Ah bah, c'est pas encore. L'apéro, c'est sympa déjà. Vous aurez, donc à l'hôtel L'Estaminet, vous aurez une cuisine de terroir. Il y a la garbure avec du chou,
bien sûr.
Jambon de Bayonne, haricots, ça tient encore. Il y a le confit et le magret de canard, bien entendu. On est dans le BA. Voilà. Et il y a la soupe de poisson quand même pour faire un peu plus léger.
L'émission, celle-ci, est diffusée au-delà de 15h, donc on sort de table là. Mais bon, c'est pour demain.
Mais on peut
si
penser au repas de demain, en effet.
Alors, vous m'avez signalé que c'était plein le week-end. Là, il faut faire attention.
Hein. Oui, c'est assez plein. C'est assez connu, cette adresse. Donc, il faut en profiter. Il faut appeler, réserver, bien entendu. Je mets toutes ces informations sur le site internet europe1.fr. Bon.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Alors, dans Samedi en France, sur Europe 1, vous allez maintenant découvrir une tradition assez peu connue, à laquelle, d'ailleurs, on va pouvoir s'exercer dans un atelier. Et avec Gavins Clément-Terruiz, ambassadeur du Guide de Houta, Excellence, vous nous emmenez à Rochefort. Mais quand on est ambassadeur, on se fait appeler Excellence, excusez-moi. Alors, rappelez-nous d'ailleurs, si vous l'ignorez, madame, monsieur, où se situe Rochefort ?
Mon cher William, Rochefort, c'est à 35 km au sud de La Rochelle.
Bon, très bien. Est-ce que ça a un rapport avec la navigation, ce qu'on va voir ?
Eh bien, indirectement, j'ai envie de dire oui. Pas directement, mais je vous dirai pourquoi.
Parce que c'est un port, il me semble, qui a vu passer des grands explorateurs. Et l'Hermione, c'est le bateau de Lafayette,
c'est là,
non ?
C'est là, on peut aller le visiter.
Et puis il y a eu les Demoiselles. Et non, mais il y a Rochefort, il se passe des trucs.
Bien sûr. Hein. On chante un peu. Non, on ne va pas chanter. Rochefort, en effet, c'est toutes ces richesses, mais ce n'est pas que ça. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Rochefort comme la patrie du bégonia.
Le bégonia. La fleur, la plante.
Oui, la fleur. Ça date de 1688. C'est le petit-fils de l'intendant de Rochefort qui s'appelait Michel Bégon.
Ah oui, d'accord.
Et il était fou de botanique. Il a ramené plein de fleurs, plein de végétaux de ses voyages, notamment quand il est revenu d'Amérique, il a ramené le magnolia, le tulipier. Et il a financé une expédition dont il rapportera une plante rare, le bégonia, qui sera nommé en hommage à son importateur indirect.
Oui. Oui, le nom bégonia, ça vient de là. Et donc, vous nous proposez quoi ? un atelier de bouture de bégonia ?
Non, pas vraiment. C'est bien joué, William. Mais non, c'est pas ça. Pas un atelier de bouture, un atelier de couture. C'est un peu mieux.
On est irrésistible, non ?
C'est une spécialité
bouture,
de Rochefort.
Bouture, jeu de mots.
Allez, Rochefort, c'est une autre spécialité, c'est la broderie au fil d'or.
Au fil d'or. Mais ça existe encore, ça ? Parce que si vous me disiez, on était au XVIIe siècle, je veux bien. Parce que des fils d'or, il y en avait sur les vêtements d'un certain nombre.
Des militaires, en effet.
Oui,
c'était pour broder les médailles sur les costumes. On avait soit de la broderie au fil d'or ou au fil d'argent aussi.
Mais on a gardé cette tradition. Les galons.
Exactement.
Et les fioritures qui se baladaient un peu partout.
Et dans cette ville qui avait été choisie par Louis XIV pour devenir l'emblème, le fleuron de la marine royale, eh bien, on cousait sur les vêtements, des militaires. Et donc, la tradition est restée de cette broderie au fil d'or et c'est resté aujourd'hui encore à Rochefort.
D'accord. Et ça s'appelle comment, cet atelier ?
L'atelier du bégonia d'or.
Ça aurait pu être une médaille, ça. Vous êtes, vous êtes distingué dans l'ordre du bégonia d'or.
Bah tiens, et on invente ça, William ?
Oui, mais je ne sais pas à quoi, ça servirait, mais bon.
On va créer ça, on va réfléchir.
L'atelier du bégonia d'or. Alors, nous sommes au téléphone avec Sylvie Deschamps, qui est directrice de l'atelier, justement, maître d'art et brodeuse elle-même au fil d'or. Bonjour, Sylvie Deschamps.
Bonjour.
Alors, vous avez appelé l'atelier bégonia d'or, on a compris pourquoi. C'est évidemment lié à cette plante, je suppose.
Oui, tout à fait. C'est lié à cette plante et aussi à l'or pour la matière phare de l'atelier.
D'accord. Depuis quand il existe cet atelier ?
Cet atelier existe depuis le printemps 95. C'est l'ancien proviseur du lycée de Rochefort, Marie-Hélène César, qui en est la fondatrice et présidente actuelle du bégonia d'or. Avec Jean-Louis Fraud, qui était maire de l'époque, à eux deux, ils ont créé l'atelier pour en faire un tremplin pour les élèves pour un nouveau diplôme qui naissait, le BMA.
Alors, d'accord. Alors, la tradition de la broderie d'or, on en a dit un mot assez rapidement, ça existe depuis quand ?
Alors, ça existe depuis, en effet, on le soulignait tout à l'heure, ici à Rochefort, depuis l'arsenal maritime, donc depuis le XVIIe siècle, mais bien avant. Ah oui. Parce que c'est vrai que les premiers à l'avoir utilisé, c'était en Chine, dans des temps vraiment reculés. On a eu l'atelier de Madame Renée Maillet, ici à Rochefort, au début du XXe siècle. Quand elle est partie à la retraite, il n'y a pas eu de relais. Les ouvrières n'ont pas créé leur atelier. Et le premier diplôme de broderie or a vu le jour ici à Rochefort en 1961.
Ah bon ? Ça n'existait pas avant, ça alors ?
Non. Mais pas au niveau diplôme.
Ah d'accord. Mais alors, quand on faisait ça à l'époque de Louis XIV, les brodeuses, elles apprenaient sur le tas, si j'ose dire, quoi.
Oui, beaucoup apprenaient sur le tas, bien sûr.
Alors, est-ce qu'on peut dire que dans cet atelier, vous proposez une formation de brodeur ou de brodeuse ? Je ne sais pas, il y a peut-être plus de femmes que d'hommes, j'en sais rien.
Tout à fait. Alors, il y a plus de femmes que d'hommes, vous avez raison. Et depuis 1995, où l'atelier est ouvert, en effet, on propose des stages qui vont de l'initiation au perfectionnement, qui peuvent durer une demi-journée, une journée, une semaine ou même plus. Mmh. Il y a également des reconversions professionnelles qui sont possibles depuis 5 ans.
D'accord, mais après tout, là, à qui et à quoi sont destinées les œuvres au fil d'or qu'on fabrique dans l'atelier ?
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est, depuis que l'atelier est ouvert, depuis 1995, on va toucher la haute horlogerie, la haute joaillerie, la mode, les parfums comme Guerlain, les spiritueux. On peut réaliser des facsimilés comme un drapeau premier empire qu'on est en train de faire en ce moment.
Ah oui, d'accord.
Pour la Maison Montblanc aussi, j'ai réalisé des séries à 10 exemplaires monde, donc séries très
liées. Mais avec des fils d'or
Absolument.
Ah bon ?
Des stylos. Avec des fils d'or, alors, sont fabriqués à Lyon. Mm-hmm. Voilà, il n'y a plus qu'un fabricant en France, alors qu'ils étaient 10 par le passé.
D'accord. On m'a dit que des ouvrages de l'atelier du bégonia d'or pourraient être montrés l'année prochaine. Où ça ?
Alors, à la maison de Pierre Loti, qui rouvrira ses portes en juin 2023,
ah, oui.
On a réalisé en effet un facsimilé d'une couverture ayant appartenu à Pierre Loti.
D'accord. Et ça, il faut peut-être le signaler, c'est grâce au loto du patrimoine qui a été créé par Stéphane Bern. En tant que, alors, vous êtes maître d'art, c'est ça ?
Absolument. Maître d'art, promotion 2010.
D'accord. Et est-ce que vous vous déplacez en France ou à l'étranger pour à la fois promouvoir votre métier ou montrer vos œuvres fabriquées à Rochefort ?
Tout à fait. Nous étions fin novembre au salon du Made in France sous le pavillon Nouvelle-Aquitaine, où là, on a eu d'ailleurs de très bons contacts et où c'était l'occasion d'avoir une vitrine ouverte sur Paris. Mais on se déplace à Nantes, à Monaco pour montrer en effet notre savoir-faire et c'est des expositions-ventes ouvertes au public.
Mais est-ce que vous allez à l'étranger parce que après tout, la broderie au fil d'or, tout le monde ne sait pas faire ça. Si vous savez bien le faire, pourquoi pas le vendre à l'étranger, non ?
Alors, il est prévu aussi que, justement, à l'automne prochain,
oui.
Avec les maîtres d'art, on est 9 qui avons été comme ça choisis par les Japonais, les grands magasins Onkyo, pour aller exposer à Osaka.
Eh ben voilà, très bonne
Alors,
idée.
Alors, j'ai pas encore les dates, mais c'est à l'automne prochain.
D'accord. Merci beaucoup, Sylvie, de cette
Merci
visite rapide. Merci, bon après-midi. Monsieur Clemente Ruiz, comment ça se passe si on veut visiter tout ça, visiter l'atelier, mais aussi s'essayer à la broderie d'or, c'est peut-être amusant ça.
Eh ben, on peut faire tout ça. Alors, on peut visiter l'atelier du bégonia d'or, c'est tous les mardis. Il faut s'inscrire à l'office de tourisme de Rochefort. Là, je mets aussi l'adresse sur europe1.fr. Ça coûte 8€ par personne pour visiter l'atelier. Et sinon, vous pouvez suivre un atelier pour apprendre la broderie au fil d'or, en effet. Alors, c'est à partir de 110€. Ça dure, ça dépend des stages, hein, que vous choisissez, de la technicité aussi. Vous saurez ensuite faire une pause de jaseron au point de Boulogne, ou alors une pause de paillettes en écaille, ou alors une pause de paillettes en point bouc.
Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander ce que c'est qu'une pause de jaseron au point de Boulogne.
Bon, William, mon anniversaire, c'est le 25 janvier, donc il faut peut-être vous dépêcher là pour faire la petite offre que vous allez m'offrir.
En fil d'or ?
En fil d'or, bah, j'espère bien.
Ça coûte cher, non ?
Bah, 110€ l'atelier.
Ah non, mais l'atelier, oui. Mais sinon, quand on a quelque chose en fil d'or, ça coûte cher.
Bah oui, il faut payer, hein, l'or. Hein, quand
d'accord.
Même.
Et si on veut manger ou dormir dans la région à Rochefort, on va où ?
Je vous propose de dormir à Rochefort même. Alors, c'est à l'hôtel Mercure. Alors, c'est un hôtel de chaîne, en effet, mais c'est le seul à être installé en plein cœur de l'ancien arsenal de Rochefort.
Ah oui.
C'est en face de la corderie royale.
Ça aussi, c'est. Nous sommes allés, me semble-t-il,
exactement,
à la corderie.
Exactement, il y a quelques semaines, nous sommes allés visiter la corderie royale. Là, vous allez pouvoir dormir, tout simplement. Au bord de la mer, entre 85 et 145 euros la chambre. C'est des chambres assez contemporaines. Vous avez une belle piscine, vous avez aussi la verrière ouverte sur la Charente et la terrasse avec vue sur la corderie. Bref, c'est une bonne adresse pour profiter d'un week-end à Rochefort.
Alors, tout de suite, Yann Kefelec, parce que lui aussi, il est ambassadeur de temps en temps, le temps d'une émission sur Europe 1, celle-ci en l'occurrence. Yann Kefelec, le Breton, au micro de Daniel Moreau. Il vous parle de la France, bien sûr, la France de son enfance. Ça se passe dans le Finistère Nord.
Samedi en France, sur Europe 1.
Bonjour Yann Kefelec.
Bonjour.
Alors, avec un nom comme le vôtre, quelque chose me dit que vous allez me parler de la Bretagne de votre enfance. C'était, je crois, dans le Finistère Nord. Est-ce que vous pouvez nous planter un petit peu le décor de cette Bretagne ?
Eh bien, c'est une Bretagne brestoise, c'est une Bretagne finistérienne. C'est une Bretagne extrêmement préservée dans les années 50. C'est un lac fluvio-maritime humecté par une rivière à l'est et deux fois par jour par les marées lunisolaires de l'Atlantique. Donc c'est un lieu tout à fait extraordinaire à voir, parce que vous avez l'impression d'être au bord d'un étang, mais par-dessus la dune, vous voyez l'Atlantique, vous voyez l'infini, et dans votre dos, vous avez la campagne, vous avez la rivière. C'est un village typiquement breton, au bord de la mer, donc, enfin au bord de ce lac fluvio-maritime, des maisons à l'ancienne, des maisons au pied dans l'eau, la marée, la pêche à pied pour le petit garçon que j'étais à cette époque, le crabe, l'anguille, enfin c'était une sorte de paradis.
Oui, je vois ça. Alors, vous aviez une véritable fascination pour la mer. On peut dire que c'est de l'iode qui coule dans vos veines, quelquefois même au point de vous relever la nuit, tellement vous étiez fasciné.
Oui, c'est-à-dire que c'était sensoriel. C'est que ce qu'on ne mesure pas en Bretagne, c'est qu'au-delà du sens de la vue qui est sollicité constamment, évidemment, tellement c'est beau, vous avez cette odeur tout à fait particulière qui ne se retrouve, à mon avis, nulle part ailleurs au monde, cette odeur de l'iode combinée avec l'odeur de la campagne. Donc, et c'est une odeur qui est assez grisante. Toute personne qui passe un peu de temps dans cette région des Abers se sent sans redoubler son énergie, il y a une espèce d'enthousiasme, comme ça, de plaisir physique extraordinaire à respirer, à aller, à visiter, à se frotter à la nature.
Alors justement, si nos auditeurs ont envie d'aller visiter, qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas rater ? Est-ce qu'il y a deux, trois petits coins secrets, mais qui ne vont plus le rester, que vous avez envie de nous faire partager ?
Vous avez évidemment des églises tout le long de la côte. Vous avez des chapelles qui sont dont certaines sont en bon état, mais dont d'autres sont en ruine. Mais les belles ruines font également partie du bonheur de la découverte du paysage breton. Donc ce sont surtout des grèves qu'il faut voir. Vous avez la rive sud de la Béryl d'Uppe, les grèves du Gouérou, tout ce littoral. Magnifiquement préservé qui va jusqu'au Conquet, qui est fait d'anses, de petits ports, de criques, de hameaux, de lieux-dits. Tout cela est à visiter et tout cela n'est pas remarquable comme peut l'être, par exemple, Notre-Dame de Paris ou la Tour Eiffel. Ce ne sont pas, encore une fois, des monuments. Mais chaque fois que vous levez les yeux sur la mer, vous êtes stupéfait par la beauté de l'endroit, stupéfait par les perspectives, par la vision des îles, par les métamorphoses de la lumière, par le vol des oiseaux, par les reflets sur la mer qui sont constamment changeants du fait de la marée qui monte et qui descend particulièrement vivement dans ce chenal du Four qui est à l'ouvert de la Manche, hein, qui fait la jonction entre l'Atlantique et la Manche. Il faut se laisser guider par ses orteils, par son instinct, il faut ne pas hésiter à cueillir des brins de bruyère, à ramasser des mûres. Il faut se mêler avec beaucoup de sincérité à cette nature qui vous le rendra au centuple.
Merci beaucoup, Yann Kefelec.
Merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup, Yann. Merci à Daniel. À Naber, il faut expliquer, hein, parce que tout le monde ne connaît pas cette région de Bretagne. À Naber, c'est quand la mer pénètre dans une vallée, c'est comme un estuaire, hein, c'est ça. Yann Kefelec, on peut le retrouver dans son dernier livre consacré à Florence Artaud. Ça s'appelle « La mer et au-delà ». C'est aux éditions Calman Levy. C'est un hommage de celui qui fut l'ami de cette immense navigatrice, au caractère bien trempé. Elle avait une vie romanesque aussi. Restons un petit instant dans ce Finistère, parce qu'une adresse d'abord au Conquet. Il a parlé du Conquet.
Ah ouais, l'hôtel Sainte-Barbe. Je vous conseille, si vous avez envie de passer un week-end face à la mer, c'est le dernier hôtel avant l'Amérique, dit-on le plus souvent. Et c'est vraiment très beau. Vous avez juste la mer pour vous comme paysage. C'est sublime.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Alors, comme chaque samedi avec Gavin Clémenté-Ruiz du Guide du Routard, voici la proposition pour un site de plein air. C'est ce qu'on appelait, pendant la Première Guerre mondiale, une tour d'observation. Observer quoi? Les animaux ou les armes? Non, pas du tout. Première Guerre mondiale, suivez mon regard. Ben, il fallait regarder de l'autre côté de la frontière, là-bas, pour surveiller l'ennemi. Alors, on va où cette fois?
Direction l'Aisne, William, dans les Hauts-de-France, dans un village à 10 minutes de Villers-Cotterêts, qui sera le lieu de la future cité internationale de la langue française.
Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors, on y fait quoi une fois qu'on est là-bas?
Alors, eh ben, on va monter, on va grimper dans la tour d'observation du général Mangin. C'est l'un des héros, le général Mangin, de la Première Guerre mondiale. Clémenceau disait de lui, il a fait la guerre en soldat et non pas, comme d'autres, en fonctionnaire.
Mais pourquoi on parle de tour d'observation? J'ai dit tout à l'heure pour surveiller l'ennemi. Alors, il faudrait que ça soit suffisamment conséquent. Oui, mais qu'on la voit pas trop non plus.
C'est ça. Il fallait que ce soit bien caché. Donc le général Mangin a décidé de construire cette tour dans cette forêt qui est très, j'ai envie de dire, très chevelue, très feuillue. On est installé dans la forêt près de Puiseux en Retz.
D'accord. La tour, elle est en bois. Hein.
Elle est en bois, exactement.
D'accord. Alors c'est là qu'il y a une importante forêt dont vous venez de parler. On vous propose de vous immerger dans cette forêt. À chaque étage, vous allez voir, chaque étage de la tour, hein, on vous réserve des surprises et lesquelles vous allez voir. Nous sommes avec Ségolène Baudson, qui est conseillère en séjour. Conseillère en séjour, c'est bien ça?
C'est beau.
Ouais. À l'office du tourisme Retz-en-Valois, pour nous en parler un peu plus. Bonjour Ségolène Baudson.
Bonjour.
Alors, cette tour d'observation, d'abord, est-ce que c'est la tour d'origine? Est-ce qu'elle date de la Première Guerre mondiale ou elle a été réhabilitée, reconstruite?
Alors non, c'est pas exactement la tour d'origine. Il s'agit d'une reconstitution qui a été réalisée en 2018 dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, puisque la première tour avait malheureusement disparu.
Ah, d'accord. Elle a été reconstruite à l'identique?
Quasiment à l'identique. Les architectes ont travaillé notamment à partir de documents d'époque, issus notamment des services des archives de l'armée.
Oui.
Pour pouvoir reconstituer vraiment une tour au plus proche de la réalité historique. Mais évidemment, la structure telle qu'elle est aujourd'hui est également adaptée à l'ouverture au public. Donc il y a par exemple un petit changement sur les escaliers, des protections pour les visiteurs, etc. Mais globalement, visuellement, c'est la même tour.
Oui, alors à quoi ça ressemble pour nous expliquer ça sans les images?
Alors c'est une tour qui fait 25 mètres de haut. Donc elle arrive vraiment tout en haut de la canopée, hein, tout en haut des arbres.
Oui.
Il y a en tout 8 étages et le dernier offre une vue magnifique. Bon, elle se mérite un peu parce qu'il faut gravir 144 marches pour y aller.
Ah bah oui, je me doute bien qu'il n'y a pas
d'ascenseur. Oui, il y a 144 marches.
Il n'y a pas d'ascenseur, oui, c'est sûr. Non, mais ce qui était intéressant, c'est que presque à chaque étage, on a quelque chose à voir en plus.
Oui, tout à place et à chaque niveau, il y a de quoi faire pour reprendre son souffle d'une part et également pour en apprendre un peu plus sur la tour elle-même, sur la bataille qui lui est liée, mais également une grosse mise en valeur du patrimoine naturel puisqu'on est quand même au cœur de plus de 13 000 hectares de forêt domaniale.
Oui, et qu'on voit très bien, mais là, il faut, comme vous l'avez dit, mériter le sommet, donc il faut attendre avant de tout voir. Alors, vous avez parlé d'une bataille, c'est vrai que la forêt tout autour a joué un rôle important dans une bataille qu'on appelle la bataille de Villers-Cotterêts, c'est ça ?
Oui, on l'appelle plus précisément la contre-offensive de Villers-Cotterêts, puisqu'elle répondait à des attaques allemandes qui avaient eu lieu quelques semaines et quelques mois auparavant, puisque au printemps, les Allemands lancent ce qu'ils appellent la Friedensturm, la guerre éclair, avec pour but d'atteindre Paris avant que les Américains soient capables de nous rejoindre. Et du coup, les Français vont préparer les offensives pour répondre, tout simplement.
Ils étaient très Friedensturm, non seulement pour la première, mais la seconde aussi, ils ont remis ça.
Exactement, oui, c'est ça, c'est la même technique, exactement.
Mais à l'époque, là, celle-là, on l'appelle la tour Mangin. Est-ce qu'il y en avait d'autres dans le coin? Parce qu'on est face à l'ennemi, là. Je suppose qu'il n'y avait pas qu'une seule tour, quand même.
En 1918, sur cet emplacement stratégique qui est la butte Réaumont en forêt de Retz, il n'y avait qu'une tour. En revanche, par des documents d'époque, on sait que des tours en forêt de Retz, il y en a eu depuis le Moyen-Âge, puisque la forêt est assez vallonnée. Et du coup, oui, il y a des tours qui existent depuis le Moyen-Âge. C'est assez bien documenté pour la partie plus contemporaine, je dirais fin 19e, début 20e. Et déjà en 1914, le général Mounouri fait construire une première tour en forêt pour repérer les positions allemandes lors de la première bataille de la Marne. Donc, si vous voulez, la forêt de Retz, elle a toujours été au cœur du conflit et actrice majeure de l'événement.
Bien sûr, si j'ose dire, elle était sur la route. Quand on voulait envahir, la France, on passait par là. D'où l'existence de ces tours. Mais quand on est là-haut, on voit beaucoup de choses. On voit la faune notamment, il y en a toujours autant d'animaux ou pas ?
Alors oui, la forêt de Retz a toujours été connue pour être une forêt giboyeuse. C'est d'ailleurs même pour ça qu'elle avait été choisie autant jadis par les rois de France pour y venir chasser. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup d'animaux, notamment on a de grands cervidés tels que les cerfs et les biches. Oui. Alors je ne peux pas vous garantir que vous en verrez à coup sûr si vous montez à la tour Mangin, puisque les cervidés, comme les animaux de plaine, sont plutôt nocturnes. Mais bon, qui sait, avec peut-être beaucoup de patience, de silence, une bonne dose de chance et une bonne paire de jumelles, vous en verrez peut-être. En revanche, du haut de la tour, vous verrez des oiseaux, ça c'est sûr. C'est un spot génial pour les observations ornithologiques.
Oui, je regardais une photo, effectivement, quand on est tout en haut de... Alors, il y a toutes les explications nécessaires, mais c'est fou, on voit sur des dizaines et des dizaines de kilomètres au-delà. Hein.
Ah, tout à fait, on a vraiment une vue à 360 sur la forêt, ses lisières, les grandes plaines agricoles qui caractérisent le Valois. Et en gros, de la vallée de l'Aisne au nord jusqu'à la vallée de l'Ourcq au sud, vous avez vraiment tout le territoire et le massif domanial. Et c'est vrai que c'est un paysage qui varie beaucoup en fonction de la saison, en fonction de la météo également. Et c'est vrai que le dernier étage de la tour, nous, on a beaucoup de photographes amateurs qui nous disent qu'ils vont régulièrement à la tour juste pour pouvoir profiter de la vue et faire de belles photos en toute saison.
Alors, ce qui est bien aussi, ça peut intéresser les adultes, certes, mais les enfants aussi, parce que c'est ce qu'on appelle le tourisme de mémoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'explications sur ce qui s'est passé pendant cette première guerre à cet endroit-là, je suppose.
Alors oui, alors c'est du tourisme de mémoire, oui, mais pas que. Parce que, si vous voulez, le site, la tour et même le nom qui lui a été donné sont directement liés à la Première Guerre mondiale. Mais la tour telle qu'elle est aujourd'hui, elle a été conçue comme un musée vertical avec en plus la volonté de réunir les publics. Et j'insiste bien sur le pluriel, parce qu'on a mis en valeur un prisme très local avec effectivement les récits de bataille. Mais dans ces récits de bataille, on met en avant la petite histoire méconnue de la grande histoire. Et on met en valeur aussi le patrimoine naturel exceptionnel de cette forêt, puisque dans les différents étages, il y a des dispositifs sur la faune, la flore, les petits insectes et les grosses bêtes, les oiseaux. Et on a même quelque chose qui est assez sympa et qui permet justement encore plus aux enfants de s'approprier le lieu, c'est qu'à un moment, on met en avant le fait que la nature inspire directement l'histoire, puisque qui d'autre mieux que les animaux sont les maîtres du camouflage qui inspirent ensuite les tenues des soldats.
Oui, vous voyez c'est pas faux. Oui. Merci beaucoup pour cette visite rapide, Ségolène Baudson. Je vous souhaite un bon après-midi.
Merci et bon après-midi également, et puis à bientôt peut-être en haut de la Tour Mangin.
Avec plaisir, merci bien. Monsieur Clément Ruiz, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait quand on est là-haut et quand on descend? On déjeune?
On peut faire de la randonnée tout autour, et puis on peut faire, prendre son panier pique-nique, on s'arrête, et puis on en profite. Et ensuite, pour aller visiter cette fameuse Tour Mangin, c'est un accès libre et c'est gratuit, du lever au coucher du soleil. En effet, pour accéder à la Tour Mangin, il faut emprunter une route dont l'accès est possible uniquement du lever au coucher du soleil. Donc,
n'oubliez pas de revenir, hein, parce que c'est, dès que le soleil se couche, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein, c'est en face de la tour, le soleil il descend et hop, il faut partir. Là.
Mais il faut avouer quand même que c'est plus sympa en journée, parce que vous pourrez voir plus d'animaux, d'oiseaux, etc.
En dehors du pique-nique, on peut dormir dans le coin si on veut en savoir plus sur la région.
J'ai tout ça. On va dormir à l'hôtel du Régent. C'est à Villers-Cotterêts. On est 26 rue du Général Mangin, bien entendu. Les chambres coûtent environ 100 euros. C'est un ancien relais de poste du XVIe siècle, avec une façade du XVIIIe, classée monument historique, encore une fois. Et comme la salle du petit déjeuner, qui est tout aussi élégante.
Et la famille Mangin, il y a des descendants encore, hein, de la famille du général. Oui, ça existe. On peut dormir où, ça vous l'avez dit, et on peut manger où?
On va aller au kiosque de Bacchus, toujours à Villers-Cotterêts et au 12 de la rue du Général Mangin, toujours.
Non mais tout se passe rue du Général Mangin.
C'est l'homme du jour,
Il y a des avenues, des rues comme ça un peu partout en France, c'est le Général de Gaulle en général, ou le Maréchal Foch, et là c'est Mangin.
C'est le Général Mangin. Vous allez manger au kiosque de Bacchus, c'était un endroit que j'aime beaucoup, parce que il y a des bouteilles dans les murs, mais il y a aussi dans les étagères, mais il y a aussi des livres. C'est un concept resto, bar à vin, bouquiniste. C'est une petite cuisine de marché le midi, puis le soir, c'est des planches de charcuterie. Il y a les assiettes d'acra, d'huîtres, etc. Et puis on sirote un petit cru du moment. C'est parfait. Il y a des concerts aussi parfois. Bref, c'est une super ambiance.
Des bouteilles dans les murs, vous voulez dire sur des étagères?
Sur des étagères, bien sûr. Quand on va choisir
Je croyais qu'on les avait.
Le nectar.
On les avait insérés dans les murs. Ça faisait
décoration. On les boit, avec modération. Au kiosque de Bacchus.
D'accord.
12 rue du Général Mangin. Ah bon. À Villers-Cotterêts.
Alors, si vous êtes arrivé en retard, on termine avec un récapitulatif des sites que nous vous avons présentés aujourd'hui. Peut-être n'étiez-vous pas là au début. Alors, on y va.
A visité l'apothécairie de Baugé en Anjou, avec des yeux, des crevisses, de la poudre de cloporte et du sang de dragon pour nous soigner. Oui, voilà.
Ça, c'était l'époque de Louis XIV. Enfin, ça a un peu évolué.
Ça a un peu changé. On a levé la tête dans l'église Saint-Girons de Menin, dans les Pyrénées-Atlantiques.
Cher à Henri IV.
Exactement, le Paris du Béarn. On a aussi essayé de ne pas se piquer les doigts dans l'atelier du Bégonia d'or. Ça, c'était à Rochefort, en Charente-Maritime, pour broder au fil d'or.
Ce qu'on fait encore aujourd'hui,
encore,
avec
exactement.
Du fil d'or qui vient de Lyon.
Exactement, la dernière fabrique de fil d'or en France. Et on a fini par monter dans la tour d'observation du Général Mangin. Ça, c'était pas loin de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne.
Puisqu'on parle beaucoup de France dans cette émission et des lieux que nous vous suggérons, on vous parle aussi de livres, de films, d'expos qui sont en lien avec la France. Qu'est-ce que vous avez retenu cette semaine?
Alors cette semaine, c'est une installation. C'est celle du sculpteur plasticien Daniel Buren, qui est connu pour les fameuses colonnes de Buren au Palais Royal à Paris, noir et blanc. Il y a aussi la verrière bleu-blanc-rouge du palais d'hiver de l'Élysée. Et bien cette fois, on est à Dijon. C'est à la Banque de France. Et on va se promener dans la rue Saint-Gaudrance. Et là, on va voir le jardin où il a installé, dans les jardins de la Banque de France, sa nouvelle installation. C'est une réinterprétation, j'ai envie de dire, des tuiles vernissées bourguignonnes, vous savez, en losange, avec des couleurs très, très, très géographiques, rouge, vert, jaune, noir et blanche. Et ça descend comme ça de la toiture. C'est très original. On dirait un voile qui descend sur l'herbe du jardin. C'est assez spectaculaire. Ça fait 35 mètres de long.
Ah, quand même.
C'est de l'art contemporain. Et c'est gratuit, c'est Buren, c'est à la Banque de France de Dijon, et c'est jusqu'en novembre 2022, pour une fois qu'on est content d'aller à la banque, William.
Sans payer les frais de gestion.
Ah oui, bien sûr.
Ouais, c'est ça le problème, mais ce n'est pas l'objet de cette émission. Merci beaucoup, monsieur Clément Ruiz, pour ce conseil. On ne manquera pas de nous y arrêter si nous sommes de passage à Dijon. Et L'émission est maintenant terminée. Merci à Maryse Jacquet, à Christophe Pierrot, à Daniel Moreau, à Morgane Biquillet et bien sûr à M. Gavins, Clémenté Ruiz. En ce qui nous concerne, on se retrouve samedi prochain, c'est à 15h pour partir à la découverte de 4 nouveaux sites présents sur le territoire français et que vous ne connaissez pas assez, pas suffisamment. Voilà, passez un bon après-midi sur Europe 1. Merci.